Donc, le professeur Nicolas Franck est un habitué. On lui a promis cette année qu'il aurait un peu plus de temps que les deux fois précédentes où on l'avait fait plutôt passer en fin de programme et où il avait dû courir. Donc, cette année, il est accompagné du docteur donc Petitjean qui, vous l'avez vu au programme, interviendra sur une autre partie de la question de la réhabilitation et qui est président de CME donc du CHS d'Ainay-le-Château. Et puis Julien Dubroc donc nous parlera à un autre moment donc de la question du case management, puisqu'on a voulu aussi à certains moments faire des focus d'application pratique et concrète, hein, c'est pas péjoratif évidemment pour les interventions qui vont précéder, mais montrer ce que ça peut donner sous la forme de cas concrets et en particulier autour du parcours de santé. Alors c'est vrai qu'avec la réhabilitation, notamment la réanimation cognitive, on est souvent confronté à cette difficulté d'une évolution de spécialité, en quelque sorte, et qui parfois s'organise, et même contrainte et forcée, de façon spécifique dans nos établissements, mais dont on voit bien que les apports de compétences, de connaissances et de pratiques doivent se répandre dans l'ensemble de la discipline et faire en quelque sorte compétence socle. Donc cette double nature de la réhabilitation, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. C'est un sujet qu'on a du mal à aborder du point de vue des organisations, des processus et des structures de soins. On est souvent dans la difficulté pour les établissements qui ont commencé de le mettre en place. Je crois qu'on peut en témoigner mutuellement. On ne va pas s'en cacher. C'est une implémentation qui n'est pas évidente. Et peut-être pas uniquement parce que la connaissance est nouvelle et différentielle par rapport à des connaissances et des compétences plus acquises ou plus traditionnelles, mais parce que je pense personnellement qu'elle impacte beaucoup l'organisation de nos établissements et qu'on ne peut pas la laisser uniquement comme dans une logique de spécialité, et que l'interpénétration avec la psychiatrie générale est un vrai enjeu, un vrai débat, et je suppose qu'on l'abordera. Donc, professeur, on vous laisse la main pour remettre le paysage en perspective, et puis encore merci à vous.
Bonjour. Écoutez, merci à M. Mariotti pour cette invitation. Je vais centrer mon intervention sur les raisons de mettre en place la réhabilitation et la manière de le faire, donc en partant des besoins. C'est bon, ça marche. Tout d'abord, en psychiatrie, nous avons affaire à des troubles complexes, avec une origine multifactorielle, des cadres nosographiques qui n'ont pas de validité externe. On vient de parler de l'enfance, c'est la même chose pour l'adulte. L'autisme est quelque chose qui est en pleine évolution, avec ce qu'on appelle l'autisme syndromique, qui est en train de sortir des classifications et des diagnostics qui sont retenus. Et on va faire la même chose pour la schizophrénie syndromique. Donc l'enjeu est dans une spécialité en évolution, avec des diagnostics qui sont flous, qui vont être précisés grâce au progrès de la génétique, grâce au progrès de la neuroimagerie dans les années à venir, de néanmoins proposer des soins de qualité répondant aux données de la science actuelle. Alors, même si les diagnostics sont difficiles à poser, ne sont pas définitifs, on peut quand même regarder ce qu'il en est actuellement, et on voit qu'en termes de sévérité, c'est la schizophrénie qui domine. Vous avez par exemple les pathologies là, qui génèrent le plus d'hospitalisations de longue durée dans 20 établissements français, et vous voyez que la schizophrénie, F2, est largement devant les autres. Ça, c'est une thèse qui a été faite récemment, qui vient confirmer les travaux antérieurs de Magali Koldofi et d'autres auteurs. Donc ce sont des diagnostics qui sont provisoires, qui ne recouvrent pas toute la problématique, mais néanmoins, ça permet de cibler une population, et c'est pourquoi aussi une partie de mon intervention est consacrée plus à la schizophrénie qu'aux autres diagnostics, même si les dispositifs que je vais vous présenter ne sont pas spécifiques d'une pathologie particulière, mais sont ouverts à toutes les personnes présentant des troubles psychiques sévères. Alors, dans les prises en charge, la difficulté est souvent de mettre l'accent sur la réduction des symptômes, sur la partie malade, plutôt que sur une vision intégrative de la personne qui prenne en compte la partie saine. Donc on va voir que dans ces dispositifs, il y a une évaluation qui fonde le socle des prises en charge, qui considère aussi bien les ressources préservées que les limitations de l'autonomie. Et ceci est particulièrement important parce que le pronostic fonctionnel, c'est-à-dire la capacité des personnes à s'insérer et à développer une vie satisfaisante et à ne pas rester en institution pour une partie d'entre elles, dépend largement d'autres facteurs, d'autres paramètres que les seuls symptômes. Et donc nous allons voir de quels facteurs il s'agit et nous allons voir comment agir dessus. Alors, quels sont les autres paramètres à prendre en compte? Je ne vais pas m'étendre sur certains d'entre eux. Tout d'abord, la iatrogénie, ça a été évoqué par Sandrine Saunier pour les enfants, c'est la même chose en adultes. un traitement bien conduit, ne ciblant pas seulement les symptômes, mais prenant en compte les rapports bénéfices-effets indésirables, est tout à fait indispensable. Et un traitement excessif peut complètement détruire la trajectoire des personnes. Le mode de vie, avec l'effet du manque de stimulation et de contacts sociaux, qui peut également aggraver le pronostic. Et parmi les facteurs du manque de stimulation, il y a évidemment l'institutionnalisation. Donc nous devons lutter au maximum pour que les personnes puissent s'insérer dans la société, au maximum avec des dispositifs de droit commun. Et puis, dans les troubles associés auxquels on va plus se consacrer maintenant, il y a également les troubles cognitifs qui ont un impact majeur sur la capacité des personnes à la fois à développer des relations sociales, à développer une autonomie en termes de logement et à s'insérer professionnellement. Et puis aussi les troubles de l'insight, dont il sera question en particulier dans l'intervention suivante de François Petitjean, puisque ça impacte certaines pratiques de soins, dont l'éducation thérapeutique. Et puis également les symptômes négatifs de la schizophrénie, avec le manque de motivation, l'incapacité à se mobiliser en direction d'un projet qui relève de nouveaux outils de soins. Alors, cette diapositive pour montrer que le pronostic actuellement est assez mauvais. Ça ne veut pas dire que les personnes ne peuvent pas se rétablir. Ça veut dire qu'il faut, enfin, je l'utilise dans le sens en faveur de l'introduction justement de ces nouvelles techniques de réhabilitation. Vous voyez qu'avec cette méta-analyse finlandaise sur une population très importante, lorsqu'on demande simplement pour considérer qu'elles se rétablissent, qu'il y ait une réduction symptomatique, un meilleur fonctionnement social et que l'une de ces deux améliorations persiste sur 2 ans, on a seulement 13,5% de rétablissement pour les personnes souffrant de schizophrénie. Donc ça fait plus de 85% des personnes qui ne se rétablissent pas, donc qui ne s'insèrent pas et qui vont mal du point de vue clinique. Donc il y a absolument besoin non seulement de faire des recherches sur ces pathologies, mais également de développer de nouveaux dispositifs de soins. Donc la réhabilitation découle de ce constat. Alors elle a évolué en plusieurs étapes. D'abord, les personnes ont bénéficié de l'apport de la thérapeutique dans les années 1950-1960, ce qui a permis la désinstitutionnalisation dont on a déjà parlé tout à l'heure. Des ressources communautaires ont dû être créées pour répondre à ces sorties d'hôpital extrêmement nombreuses dans les années 1970. Et à partir des années 2000, on a commencé à bénéficier de l'apport des sciences cognitives, donc d'une meilleure compréhension de la maladie, ce qui a permis de développer de nouveaux outils de soins, des outils plus techniques en tout cas. Donc on a commencé par développer la réhabilitation parce que les gens sortaient, et maintenant on développe la réhabilitation de manière plus spécifique parce qu'on comprend mieux la maladie. Donc 2 étapes distinctes. Donc la réhabilitation peut être décrite de plusieurs manières, soit selon les outils qu'on va utiliser, donc pour optimiser les capacités persistantes, atténuer les difficultés qui résultent des conduites déficitaires, c'est la définition qui me paraît la plus opérante, soit en fonction de l'objectif, récupérer un fonctionnement social le plus optimal possible, soit en fonction du contexte psychopharmacologique, contexte communautaire. Donc plusieurs définitions avec quelque chose, un objet qui est assez complexe. Alors pourquoi développer la réhabilitation ? Eh bien parce que les personnes ont des difficultés d'adaptation quotidienne, parce que les troubles associés, dont les troubles cognitifs, les troubles de l'insight, les symptômes négatifs, ne sont pas pris en compte ou peu pris en compte par les thérapeutiques habituelles, et parce que, de manière respectueuse pour les personnes, et utile et efficace, il est nécessaire de considérer autant les ressources préservées que les limitations fonctionnelles. Alors, certains pays ont structuré des soins autour de l'approche du rétablissement. Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, Australie, certains États américains, avec une satisfaction des usagers. En France, donc nous avons eu ce grand élan communautaire dans l'après-guerre, avec les dents retrouvées, les Croix-Marines, la psychiatrie de secteur qui s'est créée, certaines associations comme l'UNAFAM. Donc il y a eu un virage ambulatoire dans les années 1960-1970, dans les suites des progrès de la psychopharmacologie, mais la désinstitutionnalisation est restée incomplète. Actuellement, les modèles de soins restent hospitalo-centrés, avec des moyens beaucoup plus importants consacrés à l'intra-hospitalier qu'à l'extra-hospitalier, des chefferies de service en intra-hospitalier, et puis un manque de coordination sanitaire médico-sociale, avec quelques exceptions, comme le service du docteur Jean-Luc Roland, par exemple. Alors, pourquoi essayer de changer ce modèle ? Eh bien, parce que cela aboutit à une approche des personnes qui est partielle. Donc, le parcours de soins n'est pas considéré dans son ensemble. À partir du moment où les projets ne sont pas construits, où les personnes ne sont pas accompagnées dans la continuité, c'est un facteur de rechute et donc de consommation de soins. Donc l'objectif, ce serait d'introduire une évaluation, une stimulation plus précoce, qui tienne compte des ressources de la personne et qui s'appuie sur une perspective du rétablissement, c'est-à-dire que l'on construise le projet qui va satisfaire la personne, qui va lui convenir et qui va lui permettre de se stabiliser. Donc l'idée est de renforcer la partie saine. Alors comment le professionnel de santé peut-il intervenir en faveur du rétablissement? Tout d'abord en permettant à la personne de reprendre la maîtrise de sa trajectoire, en n'ayant pas une approche centrée uniquement sur les symptômes et dans le but de réduire les symptômes, donc en favorisant l'autodétermination, en permettant à la personne de prendre conscience non seulement de ses limitations, qui sont souvent pointées et qui la stigmatisent beaucoup, mais aussi de ses possibilités, et en permettant le renforcement de ses possibilités, donc des ressources préservées. Donc quels sont les déterminants du rétablissement? Qu'est-ce qui est en faveur de la possibilité de se rétablir? Eh bien, tout d'abord, des capacités cognitives satisfaisantes, que ce soit la neurocognition, c'est-à-dire la capacité à mémoriser, à se concentrer, à s'organiser, la cognition sociale, la capacité à comprendre autrui, l'expérience de soi et la capacité de narration, la capacité à avoir du recul sur soi-même, sur sa trajectoire, et puis également l'insight, la capacité à prendre conscience non seulement de ses symptômes, de sa maladie, mais également de la nécessité de se soigner, le fait d'être peu stigmatisé et le fait de retrouver une motivation. Donc, quand ces facteurs-là sont présents, la personne a plus de chances de se rétablir. L'objectif des soins, c'est donc de prévenir la chronicité, de valoriser le potentiel et de favoriser la réussite de projets concrets pour la personne. La réhabilitation se centre toujours sur des objectifs de la vie quotidienne et les outils sont déployés pour que ces objectifs puissent être atteints par les patients. Donc il faut que la réhabilitation soit simple en termes d'accès. Il faut utiliser des outils de soins qui soient validés dans la mesure du possible. On a trop souffert en France d'avoir recours à des dispositifs qui n'ont pas été étudiés scientifiquement. Et en termes d'efficacité et en termes de capacité à pouvoir se déployer sur les dispositifs de soins, il faut utiliser, dans la mesure du possible, des soins de durée limitée et individualisée. Donc, comment procéder en pratique? Eh bien, tout commence par une évaluation fonctionnelle. L'idée, c'est de permettre à la personne de bien comprendre où elle en est, non seulement du point de vue de sa maladie, mais également du point de vue de ses possibilités, à partir d'une évaluation. Donc, dans ces dispositifs, les personnes accèdent facilement à un premier avis. Si ce premier avis montre que la personne est stabilisée et dans les conditions de bénéficier d'une évaluation fonctionnelle, celle-ci est mise en œuvre dans les semaines qui suivent. Elle se base non seulement sur la détermination de ses capacités cognitives et de ses limitations, mais également de son autonomie au quotidien. Donc ça consiste simplement en quelques séances avec des professionnels de santé. Ça nécessite la présence de neuropsychologues pour la partie cognitive, mais également l'investissement de professionnels formés, infirmiers ou éducateurs, pour l'autonomie au quotidien. Et cela permet de voir comment des difficultés cognitives ou les capacités cognitives peuvent retentir ou peuvent s'exprimer dans la vie quotidienne de la personne. Donc nous avons un premier avis qui est donné par un médecin, une évaluation qui est proposée avec des professionnels paramédicaux, donc neuropsychologues, éducateurs, infirmiers, et puis une restitution qui met en avant les ressources préservées de la personne et ses limitations. Et à partir de là, la personne va être armée pour mieux construire son projet et nous allons pouvoir éventuellement proposer de renforcer les ressources préservées de la personne pour qu'elle ait plus de chances de faire aboutir le dit projet. Donc en fonction des résultats de l'évaluation, peuvent être proposés des outils de soins de type remédiation cognitive s'il y a des difficultés cognitives qui ont un retentissement et que ça a un sens pour la personne de proposer une telle action, de l'éducation thérapeutique pour les personnes qui ne sont pas investies dans leur traitement ou qui ont une mauvaise connaissance de leur maladie, afin qu'elles puissent s'approprier à la fois la maladie, mais le traitement avec ses effets indésirables et ses effets positifs, et puis d'autres outils qui sont détaillés sur cette diapositive. Donc ces différents outils de soins ont fait preuve de leur efficacité. Si on prend simplement les méta-analyses qui concernent la remédiation cognitive, vous voyez deux travaux importants qui ont été publiés dans les dernières années qui montrent que la remédiation cognitive est efficace à la fois sur l'amélioration de la cognition, à la fois sur la diminution du retentissement et une meilleure insertion. Et si on prend par exemple le retentissement sur l'insertion professionnelle. On voit que les personnes qui bénéficient de remédiation cognitive s'insèrent mieux et conservent mieux leur emploi. Ça, c'est un tableau qui résume les principaux essais cliniques contrôlés concernant la remédiation cognitive avant la prise d'une activité professionnelle. Donc, en pratique, nous avons des outils de soins techniques spécialisés. Nous avons la nécessité de faire des prises en charge sur mesure en partant des besoins de la personne, en fonction des difficultés que l'évaluation a mises en évidence, tel ou tel programme va répondre aux besoins d'une personne, ce ne sera pas un programme universel. Donc il y a besoin de créer des outils de soins, des structures de soins, pardon, qui ont une offre de soins variée, dans la mesure où il est absolument indispensable de faire du sur-mesure en partant des besoins de chaque patient. Nous favorisons l'apprentissage de nouvelles stratégies et nous adaptons toujours les soins au profil du patient. Donc, en pratique, comment développer ces structures de soins sur le territoire ? Alors, actuellement, nous avons beaucoup de régions qui n'ont pas de structure de réhabilitation. Nous allons voir sur la carte que certaines régions ont une structure de réhabilitation ou plusieurs. Voilà où nous en sommes en termes de remédiation cognitive et de réhabilitation pour ce qui concerne le réseau de remédiation cognitive. Et donc, vous voyez une répartition inégale sur le territoire, avec un développement toutefois extrêmement important, puisque les premières structures se sont créées dans ce réseau en 2009. Donc des régions inégalement dotées, avec certaines régions qui ont mis en place une structuration un petit peu plus spécifique, avec différentes lignes de réhabilitation, des structures de première ligne, des structures de deuxième ligne et de troisième ligne, en particulier pour la région Rhône-Alpes, qui a mis en place une labellisation avec un investissement très fort de l'ARS Rhône-Alpes. Et l'ARS Aquitaine, Poitou, Charente, Limousin a prévu une campagne de labellisation dès début 2016. Alors sur la région Rhône-Alpes, donc pour que l'offre de soins soit bien fournie, trois niveaux de structures ont été développés. Des structures de premier rang qui fournissent des évaluations et des soins de remédiation cognitive et de réhabilitation. Il y en a sept. Des structures de seconde ligne, trois centres référents qui font la même chose que les structures de première ligne et les encadrent. Et une structure de troisième ligne, le centre ressources, qui diffuse la culture et les outils de la réhabilitation. C'est pour l'instant le seul centre ressources français qui dispose d'un site web, qui organise des conférences. Et je pense volontiers que cette structure peut aider les autres régions à développer la réhabilitation de manière extrêmement large. Au niveau national, il y a le réseau de remédiation cognitive qui lie les différentes structures qui pratiquent la remédiation cognitive. Ça correspond à la carte que vous avez vue il y a deux diapos. Et ce réseau de remédiation cognitive est structuré autour de réunions qui ont lieu chaque année et autour de colloques qui ont lieu extrêmement régulièrement. Donc, en pratique, des outils de soins qui sont nécessaires pour améliorer le pronostic des pathologies sévères de l'adulte, qui correspondent à la logique du virage ambulatoire, avec le soutien à l'hébergement et l'insertion en milieu ordinaire, avec une organisation qui doit être régionale, étant donné la spécificité de ces outils de soins, la spécialisation qui est nécessaire pour les équipes. Je ne crois pas que tous les secteurs puissent approprier l'ensemble des outils de soins. Donc je crois que l'organisation doit être au minimum au niveau de l'hôpital, voire au niveau de la région, avec une mutualisation plus large. L'objectif étant d'impacter les secteurs pour une partie de la culture, en particulier pour tout ce qui concerne le case management. Il est particulièrement nécessaire également, pour faire évoluer les choses, de voir les parcours de soins dans leur ensemble. Il sera beaucoup plus efficace de renforcer les capacités des personnes si le lien entre le sanitaire et le médico-social fonctionne mieux. Et en particulier, on parlait tout à l'heure d'hospitalisation au long cours, celles-ci ont plus de chances de diminuer si les places dans le médico-social sont gérées de manière globale, c'est-à-dire s'il y a également des sorties du médico-social. Donc je crois qu'il est nécessaire de favoriser des structures qui fonctionnent sur le mode de la transition, ESAT de transition ou foyer de transition, de telle sorte que les personnes accèdent à la vie dans des structures de droit commun au maximum. Donc le développement est plus efficace s'il est concerté. Le centre ressources peut jouer un rôle extrêmement important dans ce domaine-là. Et la formation est absolument nécessaire, qu'il s'agisse de la formation des médecins ou des paramédicaux, puisqu'il s'agit de techniques de soins très spécialisées qui nécessite donc d'acquérir des compétences spécifiques et des savoir-faire spécifiques. Et par exemple, le DU de remédiation cognitive permet pour ce domaine-là de former 50 à 60 professionnels par an. Et donc c'est ce qui a permis de constituer le réseau de remédiation cognitive. Voilà, merci de votre attention.